Solani, nami beng temba I kwaya usisa kala, otwa si sebenzile kakhulu lezi nsuku, futhi ama izisebenzi ziphumile emagatsheni ahlukene. Ake sitheme uNkulunkulu uzoba kanye nathi, ngoba uma yena ukanye nathi asidingi ukunye.
Frères et sœurs, j'espérais que la chorale chante encore, mais comme beaucoup sont partis et il y a eu beaucoup de travail les derniers jours, beaucoup sont partis aussi ce matin pour prendre la prédication dans différentes assemblées. Mais merci beaucoup. Merci aux jeunes. Vous avez béni avec ces chants. Ce matin, je lisais le psaume 40. Dans lequel David écrit et dit, il faut rappeler la bonté de Dieu envers le monde, envers les gens. Et même si nous aimons les sermons, nous aimons entendre les prédications, mais les chants d'une chorale ajoutent quelque chose à la proclamation de l'Évangile. Nous voulons encore une fois prier. Seigneur, maintenant, nous voulons regarder à toi. Tu es un Dieu plein de bonté, plein de miséricorde. Et à travers les âges, tu as été la source de vie de ton peuple. Tes lois ont gardé ton peuple sur le droit chemin. Mais toi, en personne, tu as porté la vie pour garder ces lois. Seigneur, si ce matin nous examinons des encouragements, des avertissements de ta parole, cela serait inutile si toi en personne n'es pas présent, ne donne pas la vie. Pourquoi, Seigneur, veuille, s'il te plaît, rompre le pain de vie pour nous. Amen. J'aimerais lire un passage ce matin, deux passages, mais en premier, un passage dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2. Donc l'Évangile de Jean, au chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 23. Jean 2, verset 23. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Il n'est pas souvent que nous lisons, que nous entendons quelque chose comme nous avons de lire par rapport au ministère de Jésus, que beaucoup ont cru. Oui, nous lisons aussi à travers les évangiles l'opposition, nous lisons aussi les foules qui ont suivi Jésus. Mais là, dans ce verset, il est fait mention, beaucoup de gens crurent en lui. Beaucoup crurent en son nom. N'est pas dit que beaucoup l'ont aimé, l'ont apprécié, l'ont loué. Le verset, il dit beaucoup de gens crurent en lui. Et on pourrait se dire merveilleux. Enfin, c'est une grande occasion. Beaucoup de gens crurent en son nom. Mais si nous continuons, verset 24, « Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. » En anglais, il est dit « Il connaissait tous les hommes, tous les humains. » En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. En anglais, il est dit, il connaissait ce qu'il y avait à l'intérieur des hommes, des humains. Nous allons nous arrêter là pour l'instant, pour la lecture. C'est un passage étrange et pourtant il y a une profondeur dans ces versets, une profondeur de la vérité que ces versets nous transmettent, nous donnent. Mes amis, je le dis avec humilité. Je veux juste rappeler que personne ne peut se tenir ici devant vous et prendre ce pupitre sans trembler, parce que ce pupitre appartenait au pasteur Stegen. Personne ne peut parler du réveil sans trembler, parce que nous pouvons voir, nous sommes témoins de ce que le Seigneur fait parmi nous. Mais je ne peux m'empêcher de faire le parallèle entre ce que nous venons de lire et ce que nous vivons. Beaucoup de personnes viennent et croient en Jésus. Ce n'est pas que ces personnes repartent sans croire en Jésus. Non, ils croient en Jésus. Et pourtant, malgré cela, le Seigneur lui dit que le Seigneur ne s'est pas fié à eux, ne s'est pas confié en eux, parce qu'il connaissait, il les connaissait très bien. Nous ne savons pas ce que le Seigneur a vu, a discerné dans le cœur des personnes qui étaient autour de lui à ce moment-là. Parce qu'il dit, le Seigneur Jésus connaissait. Il voit des choses que nous-mêmes nous ne voyons pas. Il voyait les pharisiens, les pharisiens qui pourtant faisaient partie du groupe de ses arch-ennemis, de ses ennemis les plus stricts. Et ce pharisien est venu au milieu de la nuit vers lui. Et ainsi, Jésus n'a pas traité ce pharisien nommé Nicodème comme un ennemi. Il n'est pas venu en disant, « Ah, Toi, tu viens me voir, tu fais partie de cette race de vipères. Et maintenant, tu viens me voir. Rappelez-vous, c'est comme cela que Jésus lui-même les a appelés, même Jean-Baptiste les appelait race de vipères. Et parce que Jésus voit ce que nous ne voyons pas, Jésus a discerné le besoin que Nicodème avait, même en venant au milieu de la nuit.
Et
ainsi, s'il y a quiconque assis ce matin ici avec un besoin, réalise que le Seigneur Jésus te connaît, voit ton besoin et il est même disposé à t'aider à la condition que tu lui obéisses.
Qonda wazi kamhlophe ukuthi inkosi yasibona leso sidingo sakho futhi izimisela ukuba ikhlangabeze ikusize kuso uma nawe uzimisela ukuthi usondele enkosini ubeke isidingo sakho.
Another time a lady who was a prostitute walked into a room
where
the men were eating.
Nous lisons qu'une femme prostituée s'est introduite dans la maison où se trouvait Jésus et elle a lavé ses pieds. Et pourtant, Jésus était avec ses hommes. À l'époque, les hommes mangeaient séparément. Et donc, Jésus mangeait avec ses pharisiens, avec ses hommes. Et Jésus a discerné ce qui animait le cœur de cette femme. Et donc, il a vu au-delà de ce que les autres pouvaient voir. Nous lisons ici, nous avons lu, même si les gens ont cru en lui, Jésus ne s'est pas fié à eux. Il n'a pas fait confiance. Je me demande quelles caractéristiques ces personnes avaient pour que Jésus ne se fie pas à eux. N'est-ce pas peut-être les caractéristiques que nous pouvons avoir aussi, à savoir, nous prenons la parole de Dieu et parce que nous sommes égoïstes, alors nous tordons la parole de Dieu pour qu'elle tourne à notre avantage, pour qu'elle nous arrange et qu'elle réponde à nos besoins, à nos aspirations. Mes amis, cela est devenu une malédiction dans l'Église de Christ aujourd'hui. Les gens qui croient en Jésus, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Nous ne pouvons même pas débattre de cela. Nous croyons en Jésus, mais nous utilisons notre position dans l'Église pour notre avantage, pour notre bénéfice, pour nous arranger. Et alors, au cœur, au sein du corps de Christ, il y a une opposition. Pourquoi ? Parce que l'œil, la vue n'est pas morte. Peut-être Jésus a discerné que ces personnes allaient utiliser ce qu'il allait leur donner pour satisfaire leur chair, pour vivre une vie charnelle et répondre aux attentes, aux besoins de la chair. Beaucoup vivent une vie charnelle dans le cœur même de l'Église de Christ.
Et
Il est impossible, écoutez bien, il est impossible alors de plaire à Dieu si nous ne marchons pas par l'Esprit, si nous ne marchons pas dans l'Esprit. Peut-être était-ce Jésus avait discerné que ces personnes utiliseraient ce que Jésus leur donnait pour se bâtir leur propre image, pour leur propre avantage. Mes amis, pour que le Seigneur se fie à toi, ait confiance en toi, alors il faut que tu saches, il faut que tu meures à toi-même, il faut que tu sois mort à toi-même. Il faut que tu sois mort à ta chair. Nous ne savons pas exactement ce que Jésus, le Seigneur, voulait partager, voulait leur confier. Voulait-il peut-être révéler des mystères? Des mystères futurs, peut-être comme il l'a fait avec Daniel. Nous lisons comment Dieu a révélé des mystères, il a révélé le futur à Daniel. Mes amis, à partir du ministère du pasteur Stegen, nous avons hérité d'un ministère où les personnes viennent ici entendre l'Évangile et se donnent à Christ, se repentent. Est-ce que le Seigneur Jésus est capable de se révéler? Est-ce qu'il est capable de nous faire confiance, de se fier à nous, à toi et à moi? Peut-être Jésus voulait-il transmettre ou révéler des prophéties à ces personnes, et il y avait aussi un autre grand secret qu'il n'était pas capable de partager. Ce mystère, ce secret, était la mort sur la croix qu'il allait devoir porter, sur laquelle il allait mourir. Et cela m'est tragique, cela brise mon cœur. Est-ce qu'on peut imaginer le Fils de Dieu, le Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, n'avait personne pour l'aider, n'avait personne pour le soutenir, n'avait personne à ses côtés, alors qu'il a passé au travers ces moments, au moment où il avait plus besoin, il a porté un fardeau, et pourtant il n'y avait personne dans le monde vers qui il pouvait aller en disant « Prie avec moi ». Il allait payer le prix ultime, une fois pour toutes, pour le salut des hommes. Il était, on pourrait dire, coincé dans un impasse. Il ne pouvait pas en sortir. Et déjà, au jardin de Gethsémané, il a demandé à certains de ses disciples d'être avec lui, de prier avec lui, de prier pour lui. Qu'en est-il de toutes ces personnes qui ont cru en lui? Chers frères et sœurs, chers amis, Est-ce que le Seigneur Jésus peut nous faire confiance? Est-ce que le Seigneur Jésus peut se fier à nous?
Est-ce qu'il peut
nous confier les grandes perles de grand prix, les perles de grand prix que sont l'Évangile? Est-ce qu'il peut nous les confier? Ou est-ce qu'il sait que nous allons souiller le message du salut s'il nous le confie? Je l'ai vu se passer ici tant de fois, alors que tant de personnes vont et viennent ici à la mission. Les gens viennent, reçoivent le message de salut, mais d'une manière ou d'une autre, ils le tordent, le message, et repartent d'ici en ayant tordu le message pour leur avantage, pour leur bénéfice. Est-ce que tu réalises la valeur de cette perle de grand prix qu'il veut nous confier? Ce point, on lui dit qu'il ne pouvait pas se fier aux hommes, qu'il les connaissait. Le prix que Jésus a payé pour me sauver, pour te sauver de nos péchés. J'aimerais lire ce que Fernando Ortega a écrit par rapport à cette perle de grand prix, de grande valeur. Il a été affligé, il a été frappé en ayant été cloué sur la croix, sur l'arbre. Il a été frappé, il a été fouetté. C'est comme lorsque vous avez, c'est pas seulement d'être frappé, d'être battu, mais c'était comme une malédiction avec laquelle il était frappé, comme une maladie auquel on peut être confronté. Oui, Christ a été rejeté par les hommes. Ce prophète pourtant tant attendu, c'était ce que les Juifs attendaient, un grand prophète. Des générations ont attendu avec impatience l'arrivée d'un grand prophète pour Israël. Un prophète qui serait aussi un prophète pour les nations païennes. Donc ainsi, ce prophète tant attendu, le fils de David, et pourtant le Seigneur de David, le maître de David. Aucun homme qui était là, dans le passage que nous avons lu, n'avait compris quelle était la teneur du ministère de Christ. Mais est-ce que Dieu te l'a révélé? Même lorsque Jésus a essayé de l'expliquer à ses propres disciples, ses 12 disciples, ils n'ont pas compris ce qu'il essayait de leur expliquer.
David,
le fils de David, et pourtant le Seigneur, le maître de David. Par son Fils, Dieu a maintenant parlé. Dieu n'aurait pas pu parler plus clairement qu'au travers de son propre Fils. C'était là la manière ultime de ce que Dieu a voulu dire aux hommes. C'était le message ultime pour les hommes. Par son Fils, Dieu a maintenant parlé. Par sa parole fidèle et véritable. Nous savons comment le Seigneur Jésus est la parole. Il dit qu'au début, au commencement, était la parole, et la parole était Dieu. Alors qu'il était face à ces personnes, en accomplissant ces miracles, Jésus témoignait de cette parole, de la parole. Dis-moi, qui entend ces grognements? As-tu déjà entendu le Seigneur grogner? Pourquoi grogner? Pourquoi ces complaintes? Parce qu'il veut te sauver de ta passion. Tu regardes les femmes, les jeunes femmes. Et Jésus gémit par rapport à ça. Et la passion va au-delà de la pornographie que nous pouvons voir aujourd'hui. La passion, la convoitise. La passion, la luxure, va au-delà de simplement être témoin d'un acte sexuel. La passion est lorsque tu regardes un homme, une femme, et que tu observes. Et que tu, d'une certaine manière, tombes amoureux de cette personne en regardant ces choses. Tu t'identifies à ces personnes. Et je ne peux que m'approcher de cette personne en m'identifiant à ces personnes que je suis témoin. Alors revenons à ce que Fernando Ortega a écrit. Toi qui l'entends gémir, pas grogner, gémir. Y a-t-il jamais eu dans ton cœur une peine? Comment est-ce que tu voulais que Jésus explique cela à ces personnes? Ses amis, parce qu'ils ont eu peur de le joindre, rejoindre dans cet appel qu'il avait, alors ses amis ont pris leur distance. Certains se sont enfuis, d'autres l'ont renié. Ses adversaires l'ont insulté dans sa détresse. Ils l'insultaient dans sa souffrance. Mes amis, c'est une chose que nous avons vu devant nous-mêmes. Nous l'avons vu de nos propres yeux dans le ministère de Pasteur Stegel. Vous avez des personnes qui non seulement veulent vous faire du mal, mais ils vous insultent.
The good that is doing for them, they insult, they
malgré le bien qu'il a fait, ils le traitaient, traînaient dans la boue, ils l'insultaient, ils le médisaient en le traînant dans la boue. Alors ne soyez pas surpris, mes chers frères et sœurs, mes chers amis chrétiens, si tu expérimentes cela, si tu expérimentes cette détresse, et si Dieu permet cela, alors que tu expérimentes cette détresse et que tu as l'impression que c'est plus que cela va au-delà de ce que tu peux supporter, et pourtant Dieu permet l'insulte. Beaucoup de mains ont été levées pour le blesser, mais aucune n'est intervenue pour le sauver. Donc c'est un poème de Fernando Ortego. Alors écoutez la suite. Mais le coup qui l'a percé le plus était le coup que la justice lui a administré. De tout ce que les hommes et ce que les démons lui ont fait, son père était un Dieu juste. Il est un Dieu juste. Et il devait punir le péché. Afin d'être juste et vertueux, afin de pouvoir nous pardonner, toi et moi, Dieu a dû frapper, a dû punir son propre fils. Toi qui penses au péché de manière légère ou qui ne considère pas la méchanceté comme grande, qui ne voit pas de manière juste sa valeur, qui n'estime pas à sa juste valeur la culpabilité. Alors considère le sacrifice qui a été accompli. Prends note. Ne rate pas cela. Écris-le. Prends note de ce sacrifice. Ce n'est pas quelque chose qui lui est arrivé de manière accidentelle. Le sacrifice a été décidé dès la fondation du monde, même avant la fondation du monde. Donc, prends note à ce sacrifice. Considère, vois qui a porté ce fardeau. C'est la parole. C'est loin de Dieu. Qui a porté ce fardeau? C'est loin même de Dieu. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Dernier paragraphe du poème. Ici, nous avons une fondation, un fondement solide. Ici est le refuge pour les perdus.
Christ, the rock
Christ, le rocher de notre salut, il est le nom par lequel nous pouvons nous glorifier. L'agneau de Dieu, sacrifié pour les pécheurs, sacrifié pour annuler notre culpabilité.
Personne, aucun,
ne pourra être déçu. Si nous confions en lui, si nous mettrons notre espoir en lui, je peux comprendre que si c'est ce mystère que Jésus voulait révéler, je peux comprendre qu'il ne se fiait pas, qu'il n'était, ne voulait pas confier ce mystère. Mais après qu'il soit mort, aujourd'hui, le prix a été payé, le sacrifice a été payé, a été accompli. Est-il là maintenant, désormais, est-il capable de nous confier ce mystère? Lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Des fois, je me demande si nous ne jetons pas nos perles aux cochons. Laissez-moi, pardonnez-moi de penser à nouveau et de mentionner à nouveau le fondateur de cette œuvre. Vous rappelez le passage quand Jésus a mentionné « Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, sinon non seulement vous perdez votre perle, mais en plus les pourceaux, vous courez le risque qu'ils se retournent contre vous. »
Je me rappelle
l'excitation, la passion avec laquelle il parlait des débuts et du commencement de ce ministère. Il ne jetait pas les perles aux pourceaux. C'est Dieu qui accomplissait l'œuvre. Tout le monde était témoin de ce que le Seigneur faisait. Et c'était les perles que le Seigneur donnait. Et pourtant, les pourceaux ont piétiné, se sont retournés contre lui. Piétiner les perles, se sont retournés contre lui. Combien nous l'avons toujours à nouveau expérimenté. Le Seigneur Jésus a dit, il n'avait pas besoin qu'on se renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond du cœur des hommes. Donc, quand est-ce Dieu peut-il se fier à nous? Peut-il se confier en nous? Peut-il nous confier des choses? Nous devons tout d'abord le laisser faire son œuvre de purification dans nos vies, dans nos cœurs. Nous devons le laisser traiter et adresser les péchés dans notre vie. Mes amis, mes chers amis, tant que tu resteras assis avec ton péché, alors le Seigneur ne se confiera pas en toi. Le Seigneur ne te fiera pas à toi tant que tu garderas du péché dans ta vie, tant que tu resteras assis sur ton péché. Est-ce que Dieu a pu déjà traité l'orgueil dans ta vie? Tu marches, tu te promènes avec l'orgueil. Tu restes ici, tu connais l'évangile, tu es coutumier avec le réveil, peut-être même tu es impliqué dans cette œuvre. Et pourtant, est-ce que Dieu a pu déjà t'enseigner l'humilité? Est-ce que Dieu a pu déjà s'occuper de ton orgueil? Est-ce que tu l'as laissé s'occuper de ton orgueil? Et lorsque je dis cela, je le dis avec crainte et tremblement. Est-ce que Dieu a pu traiter les autres péchés dans ta vie? Qu'en est-il de ta colère? Est-ce qu'il a pu traiter cela dans ta vie? Cela me rappelle l'histoire quand Absalom s'est opposé à son père et quand Absalom a fomenté une révolution contre son propre père, David. Juste un exemple. Comment Dieu traite la colère dans le cœur d'un homme. Et David a dû fuir Jérusalem parce qu'Absalom voulait prendre le pouvoir à Jérusalem. Et dans l'embarras de cette situation pour David, les circonstances paraissaient être une défaite totale pour David. Nous lisons comment un homme les a accompagnés alors que David fuyait Jérusalem avec ses hommes, avec sa troupe. Et dans la détresse de David, nous lisons que cet homme a insulté David. Est-ce que cela vous paraît familier? Imaginez la détresse. David doit quitter, doit s'enfuir de Jérusalem à cause de son propre fils. Et il est dit que cet homme a accompagné David et lui a jeté de la poussière. Et lui a dit, « Ah, David, finalement, tu reçois le salaire de ta faute, tu mérites, tu reçois ce que tu mérites. » Écoutez, pensez à cette situation. N'y a-t-il pas eu dans ta vie, peut-être, dans ta détresse, tu as été insulté? Et peut-être dans cette détresse, face aux insultes, tu as perdu ton tempérament et tu t'es mis en colère. Et même un des soldats de David lui a dit, « Ne veux-tu pas que j'aille le trancher la tête de ce chien ?» Et David a dit, non, laisse-le, parce que c'est peut-être Dieu qui lui a instruit de venir m'insulter. Parce que David s'est souvenu de ses péchés avec Bathsheba, tout ce qu'il avait fait, et ce que Dieu avait dit qu'il lui arriverait à cause des péchés qu'il avait commis avec Bathsheba, et la punition que Dieu avait donnée. Oui, Dieu a pardonné David, mais Dieu n'a pas enlevé complètement les conséquences liées au péché de David. Lorsque nous apportons nos péchés au Seigneur, si nous appelons un chat, alors Dieu nous pardonne si nous sommes honnêtes. avec lui. Mais Dieu n'enlève pas toujours les conséquences de nos péchés. Mais si on considère la vie de David, à ce moment-là, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de haine envers cet homme. Est-ce que vous êtes surpris alors que Jésus lui-même a nommé David le prophète David ? N'a pas dit le roi David, n'a pas dit le soldat David, non pas le berger, les moutons, le troupeau, mais Jésus l'appelle le prophète David. Si vous lisez le psaume 22, vous réalisez comment Dieu s'était confié à lui. Et comment David a pu se tenir et Dieu s'est tenu à ses côtés. Est-ce que Dieu a pu traiter la jalousie dans ta vie? Tu gardes cette jalousie dans ton cœur. Si quelqu'un est béni, et dans ton opinion, selon toi, cette personne ne le mérite pas. Dieu bénit cette personne. Bénit ce qu'il fait, ce qu'elle fait. Est-ce qu'il y a encore de la jalousie dans ton cœur? Examine ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Il est dit que Dieu a accepté l'offrande de Abel et il a rejeté le sacrifice de Caïn. Nous lisons que Caïn est devenu jaloux d'Abel, au point même où il a tué son propre frère. Alors dis-moi, mon ami, est-ce que Dieu a déjà révélé ce mystère? Si Dieu n'accepte pas ton sacrifice, cela ne veut pas dire que Dieu te rejette, que Dieu te renvoie, mais cela veut dire qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a besoin de changer avant que Dieu puisse accepter ton sacrifice. Et de rester avec ta jalousie ne va rien changer à la situation. Mais tant de personnes ne laissent pas le Seigneur traiter le péché de jalousie dans leur cœur. Et cela arrive de manière quotidienne. Peut-être cela t'arrive au travail. Cela arrive à des chrétiens de manière quotidienne, au travail ou dans différents endroits. Si tu réalises que Dieu n'accepte pas ton sacrifice, alors va au Seigneur et pose-lui la question. Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas mon sacrifice? Où est-ce que je dois encore changer? Où est-ce que tu dois encore travailler dans ma vie? Parce que Dieu ne refuse pas ton sacrifice parce qu'il te rejette, parce qu'il ne veut rien avoir avec toi, mais parce qu'il veut simplement t'envoyer en enfer. Mes amis, beaucoup d'entre nous donnent notre vie en sacrifice au Seigneur. C'est une des caractéristiques de ce réveil. De offrir ta vie comme un sacrifice sur l'autel du Seigneur. de mettre le point d'être marié ou pas un jour, de mettre cela sur l'autel de Dieu. De prendre quoi qu'on te demande de le mettre sur l'autel. Comme par exemple, on me demande de nettoyer le sol, alors tu le fais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne reçoit pas ton sacrifice? Est-ce que cela, ton sacrifice, amène les tensions et les conflits dans l'Église? Et les païens regardent, considèrent l'Église de Christ. Et alors ils disent, oh, désolé, nous ne voulons pas faire partie de ce groupe de personnes. Parce que ce sont un groupe de personnes difficiles. Je préfère n'importe qui d'autre, mais quand on voit la manière dont ils se médisent l'un d'autre, les factions, les différents groupes, cela ne m'intéresse pas, désolé.
Dans
quel secteur le Seigneur doit faire sa plus grande œuvre? Simplement, je mets mon opinion. Où est-ce que le Seigneur doit œuvrer le plus avant qu'il puisse se fier à nous, se confier en nous? Là, en haut, la tête. Vous auriez surpris de voir, si vous saviez ce qui se passe dans la tête des personnes alors que même elles sont assises sur les bancs de l'Église. Mais pour illustrer cela, j'aimerais lire un passage dans 2 Corinthiens 10. Deuxième livre, deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 5. Nous remontons déjà au verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les hommes, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. L'anglais dit, nous faisons prisonnière toute pensée pour la rendre captive à Christ. Chaque pensée, chers frères et sœurs, chaque pensée que toi et moi avons doit être soumise à Christ, doit être prisonnière à l'obéissance de Christ.
Cela
me rappelle quand j'étais jeune chrétien et que j'ai lu ce verset. Et j'ai pensé, Paul, tu es en train de prêcher un évangile de salut par les œuvres. Ce n'est pas possible d'amener nos pensées à être prisonnières de Christ. Dieu doit le faire pour nous. Je veux juste venir dire, Seigneur, je n'y arrive pas, c'est à toi de faire le travail. Vous savez ce que Martin Luther a dit? Il a dit, si je prie, de manière à penser que tout dépend de Dieu. Mais si je travaille, alors je travaille de manière à, de sorte à ce que cela dépende de moi. Donc Paul écrit aux Corinthiens, ici dans son épître, en disant, nous devons amener toute pensée et à la faire prisonnière de Christ. John Wesley écrit, nous ne devons pas faire les bonnes choses parce que nous voulons, mais parce que nous choisissons de le faire. Donc, j'amène toute chose prisonnière à Christ. C'est un choix. Je choisis d'amener toutes choses en soumission à Jésus-Christ. Tous les aspects de ma vie, je les amène et je les rends prisonniers de Christ. Chers frères et sœurs, notre vie, le monde de nos pensées est le plus grand monstre dans notre vie spirituelle.
Don't deal with the consequences of your thoughts.
N'adresse pas les conséquences de tes pensées,
your deeds,
qui sont les actions. Bien sûr qu'il faut adresser ou assumer les conséquences, parce que les actions et les choses que nous faisons sont, on pourrait dire, la queue du monde de nos pensées. Vous savez où est la tête de ce monstre? Là-haut, dans notre tête. Donc, dans tes pensées, c'est là que se trouve la tête de ce monstre, non pas dans les actions. C'est pourquoi Paul a dit « Amenez toute pensée prisonnière pour l'amener à obéir au Christ. » J'arrive à la fin. Supportez-moi encore un moment. Laissez-moi citer trois exemples. Trois exemples que des hommes de Dieu ont utilisés pour illustrer le monde de nos pensées. Un homme de Dieu a dit, vous avez plus de pensées en une heure. Vous avez plus de pensées à l'heure qui sont émises dans votre pensée que de nombre d'heures dans l'année. Il y a plus de pensées qui passent dans votre cerveau en une heure qu'il y a d'heures dans l'année.
This, in our thought life, is where we will reign and conquer, or this is where we will lose.
Le monde de notre pensée est là où se trouve la victoire ou là où se trouve la défaite.
Another man of God
said, notre homme de Dieu a dit la chose suivante.
And thoughts do not come alone.
Les pensées ne viennent pas toutes seules,
but they come in flocks.
Les pensées viennent en vol, en escadrille, comme une escadrille d'oiseaux, comme un essaim d'abeilles. Voilà l'intensité du monde des pensées, pour toi et pour moi. C'est comme une escadrille. Comme un essaim d'abeilles qui arrive en même temps. Alors, je peux être assis dans l'église, je suis peut-être en train d'écouter une prédication, mais dans mon esprit, dans ma pensée, Le monde est une pensée, les choses sont à fond, une pensée après l'autre.
Et
malgré la puissance de tout cela, Paul a les tripes, pourrait dire, de décrire que nous devons amener toute pensée et les amener à l'obéissance de Christ. Chers amis, y a-t-il des pensées que tu laisses se développer dans ton esprit? Dernier exemple d'un autre homme de Dieu par rapport aux pensées. Il écrit et dit, nous ne pouvons pas empêcher les voleurs de regarder au travers de la fenêtre. Mais si nous ouvrons la fenêtre et que nous laissons les voleurs pénétrer dans la maison, alors c'est là qu'il y a péché. Cela me rappelle Pasteur Stegen en Clairlo qui disait, vous ne pouvez pas empêcher un oiseau, vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de votre tête et peut-être même lâcher une crotte sur votre tête. Mais vous pouvez empêcher l'oiseau de nicher sur votre tête. Beaucoup de voleurs qui viennent de l'enfer et qui regardent au travers de ta fenêtre. Est-ce que tu les laisses faire? Est-ce que tu vas et tu confesses là où l'oiseau a lâché sa crotte? Ou est-ce que tu as laissé les oiseaux de l'enfer faire leur nid dans ta tête? Est-ce que j'ouvre la porte de mon esprit pour laisser les voleurs de l'enfer rentrer et même commencer à avoir une conversation avec eux, avoir communion avec eux et s'asseoir ensemble? Excusez-moi de mentionner à nouveau la pornographie et les portables. Excusez-moi de mentionner à nouveau. Autant que les gens continueront à s'adonner à ces choses, alors nous devrons continuer à les mentionner. Mais si tu vas voir ces choses, alors c'est comme si tu ouvres la porte et tu laisses les démons rentrer et s'asseoir à ta table, s'asseoir dans ton salon et tu commences à avoir une conversation avec eux. Voilà ce que cet homme de Dieu a écrit, a dit. C'est une chose d'ouvrir la porte aux malins de manière consciente. Ouvrir la porte de ton esprit au mal, au malin, c'est un acte conscient, c'est un acte sensé que tu fais. C'est incroyable de voir comment facilement cela peut arriver dans la vie des personnes. Si nous mentionnons, frères et sœurs, ces péchés dans le monde des pensées, tout ce que j'ai pu mentionner au cours de cette prédication, l'orgueil, le manque d'humilité, le manque de reconnaissance, être reconnaissant pour toute chose que Dieu fait pour moi. C'est quelque chose qui se passe là en haut, dans la tête aussi. Une personne qui perd la reconnaissance, qui se perd la gratitude, alors s'attire la malédiction de Dieu.
usukela uNkulunkulu ukuba akamehlisele isiqalekiso.
And you defile the wives of other men and the daughters of other men in your brain. Who's given you the right of that, to that?
La femme de ton prochain, la fille de ton prochain, dans le monde de tes pensées, qui te permet de faire une telle chose?
So friends,
donc, mes amis, je n'aurais pas le trip pour me tenir ici et dire la chose suivante. Mais c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Bien peu de prédicateurs prêchent sur ce sujet, parce que cela paraît si impossible à faire. Mais si nous laissons Dieu nous aider, nous accorder cela, alors peut-être nous allons comprendre le mystère, nous allons comprendre les secrets de Dieu. Et cette malédiction que le Seigneur Jésus a traversée et qu'il a vécue a été vécue pour que nous puissions être libérés du pouvoir et de la puissance du péché. Que le Seigneur me fasse grâce. S'il te plaît, fais grâce. Ne laisse aucun orgueil, présente dans ma vie. Qu'il n'y ait aucun orgueil. Accorde-moi de ne pas laisser la jalousie présente dans ma vie. Que puisse faire prisonnière toute pensée. Alors le nom de Jésus, le nom de Christ sera glorifié par ma vie. Quand Jésus a vu ces personnes croire en lui, se convertir en masse, il ne s'est pas fié à eux, il ne s'est pas confié en eux. Pourquoi? Parce qu'il connaissait, il savait que ces choses sont présentes dans le cœur de ces personnes.
Mais
après avoir adressé ces choses dans la vie de ses disciples, alors il a pu révéler ses mystères et ses secrets à ses disciples. Et on a du mal à croire que ce sont toujours les mêmes personnes. Pierre qui avait renié le Seigneur Jésus, et tout d'un coup, il se lève et il prêche aux foules. Et le jour où ils ont voulu le crucifier, il a demandé alors à être crucifié, la tête en bas, parce qu'il ne voulait pas être crucifié comme son Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut faire par ta vie et par ma vie, chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous fasse grâce. Aucune meule ne moue. Aucune meule ne moue aussi fin que notre esprit, notre monde des pensées.
finding when they meet things and hear things.
Aucune meule ne moue, ne tourne aussi vite et aussi fort que la pensée, que la raison de l'homme. Il est intéressant de voir que la meule moue, mais dans le sens négatif. N'avez-vous jamais remarqué cela dans votre vie? Quand votre raison commence à moudre, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est l'amour pour le prochain qui en sort? L'amour pour celui qui est à côté de toi? Est-ce que c'est là, cela qui t'anime à ce moment-là? Non. Pourquoi Jésus a dit, je ne peux pas me fier à l'homme, à l'humain, lorsqu'il est comme cela. Et ce n'est que grâce. Ce n'est que la grâce qui peut stopper, qui peut arrêter cette meule. Nous devons aller, alors que nous sortons aujourd'hui, changeons notre attitude. Laissons le Seigneur changer notre raison. Laissez-moi finir avec ce point. Ce n'est pas moi qui le dis. Peut-être quelque chose qui sera controversé. Nous avons eu Christ marché parmi nous. Beaucoup ont accepté l'Évangile. Beaucoup ont été bénis par l'Évangile de Christ. Parce qu'ils ont accepté ce que le Seigneur a accordé. Et ces derniers jours, j'étais en conversation avec quelqu'un d'Europe, parce qu'il y a tant de choses qui se passent dans le monde actuellement. Des guerres, humainement parlant, il semble que nous approchons de plus en plus de la fin. Et j'ai dit à cette personne, mon ami, ces dernières années ont été différentes. Alors j'ai réfléchi, j'ai mentionné, j'ai dit, nous avons vécu le Covid, comment les choses ont commencé à bouger dans le monde. Ensuite, j'ai mentionné la guerre en Ukraine, comment les choses bougent dans le monde. Et je dis, regarde maintenant ce qui se passe en Israël, dans le Moyen-Orient, au Moyen-Orient. Le Seigneur nous enseigne de prier pour la paix de Jérusalem. Et cette personne à qui je parlais m'a dit quelque chose. Il m'a dit non. Dites-moi, cela n'a pas commencé là. Cela a commencé lorsque les hommes ont commencé à refuser l'évangile de Christ, l'évangile qui a été envoyé dans le monde. Et quand j'ai entendu cela, je me suis dit, bon, cette personne a raison. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, je ne peux pas fier à l'homme. Nous devons changer, nous devons laisser le Seigneur Jésus changer notre cœur. Non pas que nous entendons l'Évangile, nous venons, nous entendons l'Évangile et rien ne change. Et le jour où tu réaliseras que le Seigneur ne peut pas se fier à toi, ne peut pas se confier en toi, alors c'est là que l'espoir commence. Laissez-moi être plus spécifique. Cette personne, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est C'est ce que cette personne m'a dit. C'est pas moi qui le dis. Cette personne m'a mentionné en disant le jour où un certain nombre de personnes ont rejeté l'évangile qui leur avait été amené, c'est à ce moment-là que les choses ont changé. Comment vas-tu connaître la vérité? C'est quand le monde le haït. Que nous puissions ouvrir les yeux à l'Esprit du Seigneur pour qu'il puisse être capable, qu'il puisse être maître de notre raison, de nos pensées. Mais rappelez-vous, je suis venu ici en étant jeune et je me suis souvent posé la question, mais comment ça se fait que lorsqu'un homme de Dieu dit « faisons comme ceci », les choses marchent? Lorsqu'il commence un projet, c'est comme si Dieu commence. Cela est le fruit lorsque l'Esprit de Dieu remplit la raison et l'esprit, les pensées d'une personne. C'est pourquoi laissons le Seigneur contrôler notre raison. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, alors adresse-toi au Seigneur. Demande-lui ce que tu dois faire. Que le Seigneur puisse purifier nos cœurs et qu'il puisse purifier notre raison, notre pensée. Et cela me rappelle parfois où j'allais voir le pasteur Stegen et je lui partageais des choses, alors il changeait de sujet. Et après, je réalisais, il avait raison, parce que j'étais trop focalisé. Seigneur, nous avons entendu que tu n'étais pas fié à ces personnes, tu n'étais pas confié en eux à cause de ce qu'il y avait dans leur cœur, dans leur vie. Mais Seigneur, nous implorons, nous te demandons que tu puisses toucher nos vies, que tu puisses toucher nos pensées, notre raison, et que nous puissions comprendre les choses comme les choses sont vues au ciel. Que la mort de Christ à la croix puisse être une aide pour nos yeux, notre bouche, nos oreilles, que tout ce qui est en nous puisse être changé à cause de ce que Christ est mort pour nous. Seigneur, sois avec nous, Père Céleste, que à partir d'aujourd'hui, nos vies, nos pensées, notre raison, tout ce qui fait notre personne puisse changer. Tout cela, nous demandons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.